bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Nico qui vous parle. Une fois n'est pas coutume, je suis tout seul à parler dans le micro. Nous sommes le 17 octobre 2020 et je viens d'arriver à Dieppe, pour participer à ce festival de la BD de Dieppe pour lequel nous avions pu nous rendre l'année dernière pour la première fois. Ça se déroulait, souvenez-vous, dans le château qui surplombe la ville de Dieppe. Et cette année, malheureusement, forcément impossible de recevoir des auteurs et du public dans un lieu fermé. Donc le festival se déroule en extérieur. Sur le port de Dieppe, au pied de la Grande Roue. Donc vous entendez peut-être en arrière-plan un petit peu de vie, un peu des mouettes, des bateaux qui peuvent partir ici et là, des voitures qui passent. Et forcément, le festival est un peu plus réduit et un peu plus contraint que l'année dernière. Mais je vais quand même y faire un petit tour, puisque j'ai été sympathiquement invité par l'équipe d'organisation, par Jean-Pierre Surest, le président. Et puis j'aurai certainement retrouvé des gens qu'on connaît bien à notre micro. Donc l'idée, c'était de faire un petit épisode de l'Entrepode se balade pour faire un petit retour sur ce festival qui nous avait beaucoup plu l'année dernière et partager avec vous cette expérience. Et en plus, il fait super beau. C'est vraiment une belle chance. Il fait beau, il n'y a pas du tout de vent, de pluie ou quoi que ce soit, en espérant que ça dure. Et là, je viens d'arriver. Il y a quand même pas mal de monde déjà pour un samedi matin. Vu les contraintes, il y a bien une... pas loin d'une centaine de personnes déjà sur le site, je pense, à vue de nez comme ça. Donc je vais voir comment tout ça s'organise aujourd'hui. Je n'ai rien prévu en termes de conducteur, comme à chaque fois qu'on est en mode se balade, pour laisser le hasard faire les choses et finalement se laisser porter par l'événement comme le ferait n'importe quel festivalier. Voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt. Alors je viens de faire le premier petit tour. Effectivement, l'affluence est bien là. J'ai discuté avec quelques personnes. Pour l'instant, j'ai pas encore pris de son, mais en tout cas, le message, c'est que les gens sont très contents du fait que le festival se tienne. Ça fait une petite respiration dans le contexte actuel un petit peu compliqué, on va dire. Et les quelques premiers retours que j'ai eus vont tous dans ce sens. Bravo, le message que j'ai entendu, c'est bravo Jean-Pierre d'avoir tenu et d'avoir réussi à faire que ce festival se tienne. Donc je vais essayer d'avoir Jean-Pierre pour avoir son avis et comment il a réussi à tenir ce festival à bout de bras, parce que visiblement c'était loin d'être un pari gagné. Donc je vais essayer de l'avoir à mon micro d'ici quelques temps. Et voilà, je suis avec la star locale, l'organisateur de ce festival, avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, on commençait un petit peu à discuter là, un petit peu hors micro, mais tu vas me redire ce que tu me disais là. Effectivement, les conditions sont réunies pour ça, mais comment tu as réussi à faire en sorte que ce festival se tienne?
C'est-à-dire que je suis d'un caractère très coriace. Quand on m'a dit que je ne pouvais pas faire le festival au casino, je me suis dit, ma femme me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je téléphone à la mairie. Je téléphone à la mairie. Une heure après, je téléphone à la mairie. La mairie me dit, je leur demande s'ils peuvent me prêter des tentes, puis un lieu. Alors la mairie, une heure après, c'était OK.
Ah oui.
C'était OK. Après, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec eux pour choisir le lieu. Ensuite, j'ai été à la sous-préfecture noter tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai envoyé les papiers à la sous-préfecture. Ensuite, ils m'ont dit, il vous manque ça, il vous manque ça, il vous manque ça. Donc, ce qui me manquait, je l'ai réécrit, je l'ai renvoyé. Et quelques temps après, on m'a dit, c'est autorisé.
Ah.
Et après, la ville m'a dit, non, c'est pas là, c'est... comment dirais-je, sous le carré 4, où on est en ce moment.
D'accord.
Et donc, j'ai dit, OK, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais tu fais pas. J'ai dit, le Covid, on s'en fout. on va le faire. Et comment dirais-je, ensuite, je me suis bagarré. Enfin, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait faire. Et la semaine d'avant, il pleuvait des cordes tous les jours. Et j'ai dit à mon épouse, il pleut. Mais la semaine prochaine, ça va être un temps magnifique, et voilà.
La conviction, tu étais sûr depuis le début que ça allait bien se passer?
Non, mais moi, je suis optimiste. Hein. J'ai horreur des gens qui sont « Ah oui, mais comment on va faire ?» Moi, il y a toujours une solution. J'ai une petite fille qui me dit toujours « À tout problème, il y a une solution. » Mais elle a raison. Elle a raison, et ça, je tiens son texte hein, quand elle me dit ça. Donc je continue à... Non, j'en veux. Je m'arrêterai jamais.
Parce qu'on a pu voir, si on suit le festival, ou même toi, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a eu la partie organisation, mais il y a aussi les à côté, les problématiques des auteurs qui n'ont malheureusement pas pu venir. Tu as trouvé des solutions, on suivait au jour le jour le déroulé du festival, et on sent que tu l'as tenu à bout de bras. Et les premiers retours que j'ai là, c'est beaucoup de gens te font hommage d'avoir réussi à tenir jusqu'au bout, parce que même parmi les exposants, il y en a qui n'y croyaient pas forcément, et ils te rendent hommage.
Les trois quarts des gars de mon équipe, je crois que même tous, hein, je ne vais pas dire les trois quarts, à part Fred qui y croyait qu'à moitié, ils me disent « ça ne se fera pas ». Et quand je leur ai dit « oui, ça se fera », hein, quand je leur ai dit « ça se fera », et même quelques jours avant que le festival ait, il y avait plein, j'avais trois auteurs belges, nous ne venons pas, j'en ai Renaud, au dernier moment, je ne venais pas. J'ai dit, bon, ils ne viennent pas. J'ai pris le téléphone. J'ai téléphoné à droite, à gauche pour trouver d'autres auteurs. J'ai trouvé d'autres auteurs. Mais en plus, je suis content parce qu'il y a des auteurs qui sont un peu moins connus. Ça va les faire connaître.
Oui.
Hein, je trouve ça bien. Parce que toujours avoir, j'ai comme beaucoup de vedettes. Mais là, il y a aussi des vedettes. Hein,
oui, oui.
Il y a aussi des vedettes. Mais il y en a aussi des moins connus. Et à force de... comment dirais-je de d'en vouloir, j'ai réussi à quelque chose, toi.
Ah bah. Là, en tout cas, ouais, puis le festival, il se tient. On voit que les conditions sanitaires, les règles sanitaires ont été respectées. Le marquage au sol, il y a du gel hydroalcoolique un petit peu partout, etc. Il y a des règles aussi de fréquentation, de comptage, de ce que j'ai pu voir.
Voilà. Oui, le comptage, alors ça, c'est obligatoire, parce qu'il me faut 400 personnes sur la zone.
Maximum.
Et comment dirais-je, le gel, c'était marqué, le fléchage, c'est marqué. Alors je peux te dire aussi, là je vais te le dire, c'est un grand merci à mon secrétaire Dominique,
d'accord,
que j'ai remercié tout à l'heure dans mon allocution, qui a fait un très gros travail.
D'accord.
Hein, qui a fait un très gros travail. C'est le gars de l'équipe qui est au-dessus des autres. Hein. Les autres, ils travaillent, hein, mais un peu moins.
Ils l'entendront pas.
Non, mais ils l'entendront peut-être, je vais leur dire. Non. Non, mais ils travaillent, ils me donnent un coup de main, je suis d'accord. Toi, au bar, il y a les gars de mon équipe. Mais le gros travail, c'est le secrétaire de l'asso, Dominique. Hein.
D'accord.
Il n'y a pas de problème.
Il fait le travail un petit peu dans l'ombre, c'est toi qu'on voit devant, même
moi,
pas.
C'est moi, lui, il est secrétaire de l'asso. Et c'est un gars qui en veut aussi, hein, avec qui me fait confiance. Donc voilà, il me suit de près, il fait plein de choses.
D'accord. Et donc le festival se déroule sur deux jours, il y a des horaires, il y a des... Comment on peut dire pour des gens qui pourraient avoir...
Des horaires un peu... Voilà, je dis que les horaires, c'est à partir de 10h jusqu'à 19h.
D'accord.
Samedi, aujourd'hui, et demain, 10h, 19h.
D'accord.
Les deux jours après, c'est le gros problème... 10h, 19h, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on ait le temps de manger, parce que tout à l'heure, on va les manger, tu viens avec nous. Donc voilà, mais dans l'ensemble, tout est parfait.
Tout est parfait.
Il y avait un petit problème tout à l'heure que j'ai résolu.
D'accord. Donc finalement, je pense que là, le festival est lancé, mais tu as encore certainement des petites choses à régler à droite à gauche.
C'est-à-dire que le problème, c'est que il y a des gars qui voulaient Marc Bond en dédicace. Marc Bond n'étant pas encore présent, il s'agglutinait à 25.
Ah oui.
Il y a quelqu'un de mon équipe, il a dit non, il ne faut pas s'agglutiner à 25, on n'a pas le droit. Donc il est venu me voir, j'ai arrangé les choses, il dit je vous donne un ticket à chacun, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et j'ai dit là, j'en veux que 4.
Oui.
Et après, vous vous baladez, et quand c'est votre numéro qui arrive, vous...
Oui.
Voilà, donc il n'y avait que ça. Hein.
C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas forcément, le monde des festivaliers de la BD, c'est quand même un monde particulier, avec effectivement des gens qui sont habitués à faire la queue pendant des heures, qui sont des fanatiques un petit peu, enfin des experts, et qui sont...
Surtout les collectionneurs.
Voilà, exactement.
Alors, il y a des collectionneurs qui sont très réglo, j'en connais beaucoup, hein, ici, je les connais tous, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus... Faire attention.
Il force un peu, quoi.
Il force un peu. Donc, moi, je sais qu'il m'aime bien et que je m'y prends bien. J'ai l'habitude, hein, parce que je veux être très convivial. On veut y balader personne. Donc, je suis très gentil. La seule chose que j'ai dit pour le festival, j'oblige tous les gens à avoir un masque à l'entrée. S'ils n'ont pas de masque, ils ne rentrent pas, même que ce soit ma femme, même que ce soit ma sœur, ma belle-fille, n'importe quoi. Hein. Les gens ne rentreront pas. Et là, je vois que tout le monde a un masque. Après, le restant, c'est autre chose.
Mais tu connais en fait les codes de la BD, on sent bien, on s'improvise pas festivalier de BD comme on fait un festival de musique ou de choses comme ça. Chacun a ses codes et voilà. Ça fait des années que tu baignes dedans, donc tu connais un peu les...
Je connais les auteurs, je sais par exemple, un tel n'arrivera jamais à l'heure, parce que c'est plus fort que lui. Il y en a d'autres qui viendront dédicacer le matin, mais c'est ce que je dis toujours aux collectionneurs. Je dis, le matin, faut pas trop compter sur eux. Il y en a qui se baladent. Là, par exemple, Marc Lebon, qui est très bien, il vient, mais il n'est pas encore là.
Ouais.
Ah, donc, il a peut-être eu un empêchement. Mais
ou il visite la ville.
Mais il vient. Mais il connaît, il est déjà venu. Donc voilà, tout ça, c'est pas grave.
Non, il faut savoir s'adapter, effectivement.
Il faut que moi, je m'adapte. Il faut que les gens qui viennent s'adaptent aussi.
Exactement.
Moi, je fais tout pour que les dessinateurs, les gens, les vendeurs, les stands, faut que tout le monde soit content, tout le monde s'en dise c'est formidable, mais il y a des choses que je ne peux pas. Le dessinateur qui n'est pas là, je ne vais pas lui mettre une amende.
Non,
pas possible.
Non.
C'est ce que je dis à tous les gars. J'ai dit, il n'est pas là. Il y a une raison s'il n'est pas là. La raison, moi, je ne la connais pas, il ne m'a pas téléphoné. Donc, à mon avis, il va arriver.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Jean-Pierre, je vais te souhaiter un très bon festival, nous on va se retrouver tout à l'heure, et puis si vous avez l'occasion de venir, ne vous privez pas, parce que c'est un festival bien sympa, ça se passe en extérieur, le beau temps est de la partie, donc ça serait dommage, c'est pas en intérieur, l'année dernière on avait fait au château, cette année c'est sur le port, et c'est un festival qui sait faire preuve de souplesse et d'agilité. Voilà.
Exactement, voilà, agilité, bravo.
À bientôt Jean-Pierre.
Merci Nicolas.
Donc là, je suis avec Mathieu de la librairie Lumière d'Août. Je ne sais pas si vous connaissez, ça y est, j'ai appuyé sur X et il aime bien se foutre de moi à cause de ça. Alors Mathieu, comment ça se passe ce festival ?
Ah, très bien, le soleil est avec nous, donc c'est nickel.
Et donc,
m'interview tout le temps, donc c'est un peu pénible.
C'est un peu toujours les relous qui sont là,
ouais,
en fait.
C'est ça.
Alors, que peux-tu nous dire sur ton stand ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette année ? Quels sont les invités, notamment ? Quelles sont les choses que tu mets en avant ?
Alors il y a les nouveaux auteurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, donc Marc Boom qui nous a signé l'affiche, avec quand même Michel Vaillant pour sa BD la plus connue, ou Barbe Rouge également.
D'accord.
Jean-David Morvan, super scénariste. Il est peut-être cinéaste d'ailleurs, j'en sais rien. qui a fait des adaptations des romans de Boris Vian, de Polar, que j'ai beaucoup aimé. Il a également raconté la vie de certains serial killers dans une collection chez Glénat, puis il a fait Sillage, Irena qui a bien cartonné. Voilà. Il y a également le couple Frappier, Désiré et Alain de mémoire, sur la révolte au Chili.
D'accord.
La dictature au Chili en 2 tomes par année, c'est vraiment très puissant. Et puis j'ai deux copains qui sont déjà venus à la librairie, que j'adore leur boulot. Donc Alim Mahmoudi qui a signé Fallujah, c'est sa dernière BD sur l'adaptation d'un article qui a reçu le prix Pulitzer sur le journaliste avait démontré que les Américains à Bagdad utilisaient des bombes au phosphore. Il a eu le prix Pulitzer grâce à ça et Alim raconte ça, donc un sujet assez lourd. Et encore un sujet, on se dit, mais mince, on se fait avoir par rapport à l'actualité qu'on nous montre. Voilà. Et puis Gaëtan Petit, qui a signé RIP, qui est un chef-d'œuvre de Polar Noir, pour ceux qui aiment les Polar Noirs.
Et moi, je me suis fait avoir, j'ai pris les deux. Voilà. Parce que Mathieu est un très bon vendeur. Ouais. Vous l'entendez bien, il vous donne envie d'acheter. Voilà. Et mais c'est vrai que c'est intéressant. Et puis pour avoir échangé avec Alim tout à l'heure, c'est quelqu'un en plus de très sympathique. Et je vais ensuite faire la queue pour aller voir Gaëtan, effectivement, qui est du coin. Gaëtan, c'est un Rouennais.
Gaëtan, c'est un ancien Rouennais qui vit partiellement à Dieppe en ce moment et puis ailleurs.
D'accord.
Et scénariste hyper talentueux. À ne pas répéter, mais il a le prix du meilleur scénario, du prix du scénariste sur cette édition 2020, mais le prix sera remis ce soir.
D'accord, ça sera pas en ligne ce soir, donc c'est bon.
C'est bon.
Quand vous écouterez cette pastille, il aura déjà été célébré. Eh ben écoute, merci Mathieu, je te retiens pas plus
merci
longtemps parce que t'as un travail, toi. Pas comme moi, je suis un touriste.
Avec les machins, avec les lunettes de soleil, tout ça.
Voilà, exactement. C'est pas ton
cas. À bientôt.
Cas. Allez, salut Mathieu, bonne fin de festival.
Merci.
Go. Okay, number one, two, three. Et donc là, je suis à un stand, le stand de Lumière d'Août, hein, chez Mathieu, et j'ai le plaisir de faire dédicacer un ouvrage par Halim, le dessinateur de Fallujah. Alors Halim, je vais vous laisser nous présenter un petit peu de quoi il s'agit, parce que Mathieu m'a un peu raconté, mais c'est bien d'avoir les gens concernés, les auteurs, nous expliquer un petit peu l'œuvre.
D'expliquer l'histoire.
Voilà. Oui, alors, comment vous êtes arrivé à faire cette...
Les éditeurs Stenkis et Les Escales, c'est une maison d'édition littéraire. Ils sont mis ensemble, ils sont venus me voir pour raconter l'histoire de Ferhat. D'accord. À Lani, qui est journaliste et reporter voilà, pour plein de chaînes. Et en fait, il a fallu que je lise le récit, savoir si ça me plaisait. Et puis, bon, ça a été le cas. Alors du coup, j'ai accepté de dessiner cette histoire.
De quoi s'agit-il, justement? C'est un sujet un peu lourd.
Oui, un peu lourd. Bon, après, c'est mené, c'est pas mené comme un reportage BD. C'est une aventure quand même. On a fait un mix entre. Il y a des journalistes qui l'ont remarqué. Ça m'a bien fait plaisir. On a rendu presque un peu fictive la BD reportage pour donner des personnages plus attachants, plus. Donc on entre.
Pas uniquement dans le factuel.
Voilà. C'est pas uniquement dans le factuel, donc c'est une vraie aventure et familiale, humaine, etc. Et puis oui, c'est dur parce que ça traite de l'invasion de l'armée américaine en Irak en 2003, et puis des conséquences des bombardements chimiques qui ont eu lieu là-bas et des à l'uranium enrichi, l'uranium appauvri, et puis des dégâts sur la santé de tous les habitants.
Pas uniquement militaires, également les civils surtout.
Les militaires américains sont rentrés aussi avec de gros problèmes, en
D'accord.
fait. Le gouvernement ne leur répond pas, il les laisse complètement crever. Et en Irak, c'est une hécatombe, en fait. Pour moi, c'est le plus grand crime contre l'histoire de l'humanité.
D'accord.
Loin devant la Seconde Guerre mondiale, parce que sur Fallujah, il est tombé au niveau de radiation, un niveau de radiation 7 fois supérieur à Hiroshima et Nagasaki.
D'accord.
Et le monde entier n'est pas au courant, parce qu'il y a eu des pressions, des coupures budgétaires et des menaces de mort sur les scientifiques qui ont essayé de se pencher dessus, et des journalistes aussi.
D'accord. Et...
Une question qui me vient, moi, qui ne suis ni journaliste, ni auteur, quoi que ce soit, c'est quand on s'attaque à un sujet comme ça, est-ce qu'on n'a pas peur, justement, de représailles ou de choses comme ça?
Pendant quelques temps, je me suis posé des questions, ouais.
Oui.
Je me suis dit qu'une fois que ça allait sortir, est-ce que ça allait être chaud pour nous, quoi? Pour l'instant, rien.
D'accord.
Mais on oublie, j'ai eu peur pendant un petit moment, parce que je me suis dit, merde, en fait, on accuse quelque chose, et quand j'ai commencé à dessiner le visage de Chris Busby ou d'autres scientifiques qui ont été eux menacés de mort, je me suis demandé si voilà, effectivement
ça n'est pas réamorcé finalement le...
Ouais.
Mais quand vous dites on oublie, c'est aussi la société qui oublie finalement ces sujets là qui ont presque 20 ans, est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que...
Ouais, et puis moi j'oublie dans le sens où je vais pas me dire tout le temps que je suis menacé de mort si jamais je traite d'un sujet, parce que sinon je vais finir par ne rien faire.
D'accord.
Et oui, non, la société oublie, parce que oui, effectivement, aujourd'hui, on est... Enfin, vous le savez, on passe d'un sujet à un autre, d'un bouc émissaire à un autre, d'une polémique à une autre. C'est triste, parce qu'on en a oublié les enjeux. Dans les urgences, on dit qu'il n'y a que des enjeux maintenant. On a oublié qu'il y a des gens qui mourraient de faim, on a oublié qu'il y a des sujets très, très difficiles. Donc voilà...
Et le risque, c'est que finalement que l'histoire balbutie et que si on l'oublie, ça se reproduit. C'est un petit peu pour ça que vous avez fait cette œuvre ?
Non.
C'est parce que c'est un sujet qui vous tenait à cœur.
Ouais, moi je sais que l'histoire se reproduira de toutes les manières, parce que bon, ça a l'air d'aller dans ce sens, hein, j'ai l'impression, vu que les extrêmes droites en Europe, etc., l'écologie, ça n'a pas top. Donc je ne fais pas d'idée. Non, je l'ai vraiment fait parce que quand j'ai lu le récit de Ferhat, j'ai été dégoûté de ne pas être au courant. Rien que de voir que les médecins disent aux femmes de ne pas faire d'enfants, jusqu'à nouvel ordre. Nous, pour le Covid, on est là en train de flipper, mais si on disait à toutes les femmes en France d'arrêter de faire des enfants jusqu'à nouvel ordre, parce que la plupart naissent déformées, mais ce serait un scandale sans nom. Et de savoir que ça arrive et que les médias n'en parlent pas... Non, je l'ai fait pour ça, je l'ai fait parce
D'accord.
que je me suis... C'était insupportable de savoir qu'on ne sait rien et qu'on a l'impression d'avoir installé la démocratie ou d'avoir apporté la paix, mais en fait, on a apporté la mort. Ouais, c'est horrible. Des leucémies infantiles, des concerts, mais à des chiffres astronomiques. C'est plus une guerre, c'est, je ne sais pas ce que c'est un génocide.
Ouais. Effectivement, ouais, on le voit rarement, enfin, on l'entend quasiment jamais sous cet angle-là, donc c'est une sorte de témoignage pour faire en sorte que ça ne passe pas sous silence. Quoi.
Oui, voilà, que George Bush et tous les autres, hein, Colin Powell et tout, que l'Amérique soit traînée devant la Cour pénale internationale, là, qui ne juge pour l'instant que des dirigeants noirs ou arabes. Tu vois. Ouais. Oui, donc... Non, mais c'est vrai, ils ont jugé, je crois, 8, 9, enfin, peut-être une dizaine de personnes, à part Milosevic, qui n'est pas considéré comme tout à fait occidental. Tous ceux qui jugent, c'est en permanence des Africains ou des Arabes. Ou des... C'est plus une cour pénale internationale.
Et d'ailleurs, Trump dit qu'elle n'a aucune légitimité quand il s'agit de se pencher sur son sujet. Donc,
ça confirme.
Oui, voilà, Trump, ouais. Voilà.
Non, même si Trump, c'est Trump, mais ça n'empêche que ça
révèle. Non, je dis Trump, en fait, c'est vrai qu'on le critique beaucoup. Bon, à raison, mais des fois, oui, en fait, il arrive à faire passer une petite pique. Ouais, je suis d'accord avec lui sur ce coup-là, ouais.
Bah, merci en tout cas beaucoup, et puis je vais avoir une belle dédicace, et puis ça me donne vraiment envie de lire cette œuvre, donc qui s'appelle Fallujah, ma campagne perdue, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Et j'invite tout le monde à suivre ça, et c'est édité chez quel éditeur ?
Chez Stanky, c'est les Escales.
D'accord.
C'est une coédition parce que c'est le premier album d'une nouvelle collection qui s'appelle Témoins du Monde.
D'accord.
Voilà. Donc depuis, il doit y avoir eu 3 ou 4 albums.
Ok. Eh ben, merci beaucoup, merci, et puis bonne fin de festival. Oui, et donc là, je suis sur le stand de Hugues Barthes. Hugues, tu vas nous expliquer un petit peu quel est ton univers et quelles sont tes œuvres et ton actualité, par exemple.
Alors, mon actualité immédiate, elle n'est pas... Enfin, mon dernier livre est sorti il y a un an déjà, au mois d'août. Donc c'est Mes années hétéro chez Delcourt. Et c'est un roman graphique qui raconte l'histoire d'un homme des années 40, donc, né dans les années 40, qui a aujourd'hui dans les 75 ans.
D'accord.
Et donc qui m'a raconté sa vie. Donc j'ai fait un petit casting parce que j'avais envie de raconter l'histoire d'un gay de ces années-là. Et donc j'ai rencontré plusieurs personnes que j'ai interviewées, et puis il y en a un qui m'a vraiment intéressé parce qu'il avait beaucoup de recul, beaucoup d'humour, et il m'a raconté sa vie en une heure, et en une heure j'avais mon livre, quoi. Je voyais déjà les images, et donc voilà, c'est un volume assez volumineux.
C'est ce que je vois là, il est assez dense. Et donc, oui. T'es plutôt dans l'univers des romans graphiques en général.
Ah, c'est carrément du roman graphique. De toute façon, moi je fais que ça, c'est vraiment ce que j'aime. Et à chaque fois, c'est du roman graphique.
Oui.
Et donc, sur Dieppe, j'ai aussi Big Bang Saigon.
D'accord, de quoi ça nous parle ?
Donc, Big Bang Saigon, ça raconte. Donc là, je suis au scénario, j'ai travaillé avec un dessinateur de Besançon.
D'accord.
Avec qui j'ai été au Beaux-Arts à Besançon il y a quelques années.
D'accord.
Et donc je l'avais perdu de vue et je l'ai revu un peu plus tard au Festival d'Angoulême, et il m'a montré. En fait, il vivait au Vietnam depuis quelques années, et puis il m'a montré son carnet de croquis. Il avait dessiné pas mal de fois sa copine dans le plus simple appareil.
D'accord.
Et donc il m'a raconté sa vie, et il venait de rompre avec cette copine, et donc il était assez malheureux à l'époque, et je lui ai dit ça serait pas mal de raconter ton histoire, peut-être que ça pourrait exorciser ton tout ça, et donc il a dit oui tout de suite, en fait.
D'accord.
Et on avait déjà envie de travailler ensemble depuis quelques années, hein, et donc là il m'a dit oui tout de suite, et on a fait ça. Donc c'est aussi un roman graphique en bichromie, et donc c'est une balade entre la France et le Vietnam, et ça raconte sa relation avec cette donc c'était une Japonaise qui donnait des cours de japonais au Vietnam.
D'accord.
Et donc c'est une relation qui a été assez tumultueuse et qui a duré quelques années, donc avec des ruptures, et donc voilà, on raconte ça en 160 pages. Il y a des séquences assez érotiques.
Oui.
qu'on retrouve souvent quand même dans tes œuvres.
Ah oui, je suis assez branché.
Oui, non, mais...
mais là, c'est hétéro.
D'accord, ok. Et une question par rapport à ce que tu viens de me citer, les deux livres pardon, que tu as ici sur le terrain, ce sont des, finalement, inspirés, voire même complètement adaptés d'histoires vraies. C'est systématiquement pardon, quelque chose que tu fais, ou c'est le hasard qui fait que ces deux-là sont comme ça, ou c'est vraiment dans ton univers?
Alors, moi, je me réfère toujours à la réalité. Je ne raconte pas une histoire... Enfin, je ne vais pas faire de la science-fiction, ni du western, ni de l'anticipation. Ce n'est pas mon truc.
D'accord.
Donc, j'aime bien parler de sujets de société. Quoi.
D'accord.
Et donc,
dans lequel tout le monde peut se retrouver, plus ou moins...
Voilà.
D'accord.
Et d'ailleurs, le prochain, c'est autour des Gilets jaunes. Enfin, ce n'est pas sur les Gilets jaunes, mais c'est... avec pour toile de fond les Gilets jaunes. Et en fait, le thème général de tous mes livres, c'est la famille.
D'accord, oui.
La famille a problème, puisque
oui,
sinon, il n'y aurait rien à raconter. Et donc, là aussi, c'est l'histoire d'une famille pendant une année, l'année 2018. Et c'est l'histoire d'un jeune homme de 18 ans qui a. Bon, je raconte d'avance, avant qu'il se sorte. Qui passe son bac, qui prépare son bac donc, et qui tombe amoureux d'une fille qui est gilet jaune. Et donc, sauf que cette fille est amoureuse d'un autre garçon qui est gilet jaune. Et donc, c'est un peu le triangle amoureux sur les ronds-points. Sur le rond-point des vaches, parce que c'est assez localisé.
D'accord.
Ça se passe à Rouen. Mais là, c'est une fiction, même si c'est très
inspiré
documenté.
De faits réels, mais...
Voilà. L'histoire d'amour, non, pas
non,
du tout.
Non,
c'est
non,
vraiment
mais...
une fiction.
Mais la société,
mais,
en tout cas, ce qu'elle a vécu.
Ouais, je me suis bien documenté. Je suis allé sur le rond-point des vaches pour rencontrer des gilets jaunes. Bon, je suis arrivé un peu après la bataille, puisque c'est...
Ça s'est tassé.
Oui, voilà. Il n'y a eu plus grand monde quand j'y suis allé.
Mais tu avais quand même des témoignages.
Ah oui, j'ai eu des témoignages très forts. Et voilà, ça m'intéresse de parler de ça. Quoi.
Et c'est pour quand cette sortie, par exemple?
Alors là, je travaille encore dessus. Donc il y a encore, mais avant ça, il y aura encore autre chose.
Très, très, très prolifique, en fait.
Bah, pas tant que ça, parce que je sors un livre tous les deux ans depuis que j'ai commencé à publier. En fait.
Okay. Donc,
c'est pas tant... Enfin, c'est vrai que je fais à la fois le texte et le dessin la plupart du temps. Donc,
ça prend du temps.
Et puis ouais, et souvent il y a beaucoup de pages. Donc ça me... Et puis je fais pas que ça. Et je fais pas mal d'ateliers d'écriture et d'ateliers de bande dessinée. Donc.
Puisque je suis bien placé pour le savoir, puisque mes enfants participent à tes ateliers chez Funambule. Enfin, quand on pouvait le faire.
Alors quand on pouvait le faire, parce que je pense que pour cette année c'est un peu râpé. Mais on espère bien reprendre peut-être en septembre de 2021.
Oui, on espère, on croise les dents.
J'espère, parce que...
Et donc, ce que tu n'as pas cité, j'ai vu passer un compliment sur toi. Je sais pas, tu l'as vu forcément l'autre jour sur les réseaux sociaux où tu disais que tu étais... où c'était cité que tu étais l'un des dialoguistes les plus doués de ta génération, quelque chose comme ça, que les dialogues étaient quelque chose de fort dans ton travail.
Les meilleurs scénaristes.
Peut-être scénaristes, effectivement.
Ce qui est vrai, d'ailleurs.
Voilà, donc on vous laissera vous-même vous faire votre opinion avec les différentes œuvres de Hugues Barthes qui sont accessibles dans toutes les bonnes librairies, hein, on peut le dire comme ça.
Ah bah, dans toutes les librairies, même les mauvaises.
D'accord, ah bah voilà, comme ça vous n'avez pas d'excuses, vous allez les trouver facilement. Merci Hugues, et puis bonne fin de festival à toi. Alors, un nouvel auteur qu'on n'a jamais eu à notre micro, je ne crois pas, Eric Seca. Alors, Eric, alors c'est pas son vrai nom, il va peut-être nous dire son vrai nom, à moins qu'il veuille rester mystérieux. Mais en tout cas, Eric, peux-tu nous présenter ton univers et puis ce que tu fais ici sur ce festival?
Voilà, alors moi, je suis un local de l'étape. Hein, donc, mon vrai nom d'auteur, c'est Seca, voilà, donc Rouennais, donc de la région. Et je connais bien Dieppe. Hein. C'est un peu là que j'ai appris à nager, hein, donc des bons et des mauvais souvenirs. Voilà, et donc ça fait 15 ans que je fais de la bande dessinée, je suis scénariste, j'ai fait pas mal d'albums assez différents, voilà. dont le dernier là, que je présente aujourd'hui, c'est Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron aux éditions Faton.
D'accord. Donc avec que tu fais avec un, je dirais un collègue podcasteur, puisque c'est Yigaël qui est l'animateur du podcast L'Atelier BD. Si je dis pas de bêtises.
Tout à fait, tout à fait. En fait, ça fait très longtemps que je connais Yigaël, hein, depuis la sortie de l'école. Hein, donc, je l'ai vraiment attrapé à la sortie de l'école, voilà, si je puis dire, hein, bien sûr. Hein. Voilà, et on a fait déjà au moins 7-8 albums ensemble.
Ah oui.
Voilà, bon, il en a fait d'autres aussi. Il m'a fait des infidélités, bien sûr. Voilà.
Et réciproquement,
bien sûr, voilà. Et donc là, c'est effectivement, on travaille depuis longtemps pour une revue qui s'appelle Cosinus, une revue de science pour les collégiens. Et puis quand l'histoire est terminée dans le magazine, et ben on l'a publié en album, comme pour Victor, l'enfant sauvage.
D'accord. Et ton univers, justement, parce que là, j'ai plusieurs ouvrages sous les yeux. Donc il y a de la littérature plutôt jeunesse, il y a presque de la science-fiction, Apollo 11, on a de l'historique. Quelle est ta spécialité, toi, finalement? Est-ce que tu en as une?
Oui, bah, j'ai un côté un peu couteau suisse. Enfin, pas le compte en banque, hein, mais sinon, j'ai un côté couteau suisse. J'aime bien travailler dans des univers assez différents, voilà. Voilà. Enfin, il y a un univers que j'adore, mais dans lequel je n'ai pas travaillé, c'est la dystopie. Voilà.
D'accord, oui.
Mais sinon, effectivement, j'aime bien l'humour, l'histoire. Voilà, mais je travaille un petit peu aussi au gré des rencontres, au gré des propositions aussi des éditeurs. Voilà, en ce moment, je fais pas mal d'historique.
D'accord. T'as un parcours d'historien ou c'est venu sur le tas, c'est par affinité ou...
Non, moi j'ai plutôt un parcours publicitaire en fait, hein, voilà. Donc j'arrive à travailler facilement un peu sur commande, on va dire, voilà, parce que j'ai peut-être aussi ce pli-là que j'ai pris avec la pub, hein, comme j'étais créatif. Voilà, et j'ai pas du tout d'origine universitaire ou historique.
D'accord.
Voilà. Mais par contre, je me suis découvert une petite passion de rap bibliothèque.
D'accord.
En fait, le côté un peu documentaire, finalement, j'ai un truc que je...
Tu as pris goût ?
J'aime, ouais, j'aime bien, voilà. Mais ce qui est paradoxal, parce que j'ai pas de mémoire. Voilà. Mais ça travaille sur moi-même.
Tu redécouvres à chaque fois les choses, c'est ça ?
Voilà. Je suis le poisson rouge de l'histoire.
Donc, en fait, finalement, ce sont un peu des témoignages que tu te laisses pour toi-même. En fait, quand tu écris un livre, tu te dis, bah, je me replongerai dessus un jour, c'est ça ?
Voilà, je dirais, ah tiens, c'est qui a écrit ça ? C'est sympa, dis donc, il en sait des trucs, ce gars-là.
Et donc, à titre d'actualité, pardon, tu as d'autres choses qui vont sur lesquelles tu travailles actuellement, qui vont sortir dans les mois ou les semaines, peut-être, je ne sais pas, qui viennent.
Oui, alors j'ai eu une année un peu spéciale en 2020 avec effectivement la pandémie, donc très peu d'albums, j'en ai qu'un, donc ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Et puis du coup, en 2021, je vais avoir effectivement beaucoup plus d'albums qui vont sortir, du rattrapage. Ouais. Voilà, je vais en avoir au moins 5, 6, voire 7, voilà, donc beaucoup d'historiques. Donc il va y avoir l'affaire Dreyfus, chez l'Histoire Junior, édition Faton, le Jeanne d'Arc chez Petit à Petit, et puis chez Varouge, je vais aussi avoir plusieurs albums, dont un sur le bateau, le Téléma qui a coulé à Quillebeuf à la Révolution française. Voilà, et puis d'autres albums hein, sur Léonard de Vinci, enfin beaucoup d'historique.
D'accord.
Voilà.
Ah, moi, je crois que le dernier livre que j'ai lu de toi, c'était sur Jack l'Éventreur, si je dis pas de bêtises. Que tu as dû sortir il y a quelques temps déjà, maintenant, je sais plus, mais j'avais bien aimé cette approche justement où tu mets un peu de toi dedans, dans ces livres en fait. C'est pas juste du factuel, je parle peut-être à ta place, mais je sais pas comment toi tu traites ces sujets-là.
Oui, alors là, moi, j'ai l'angle que je voulais avoir avec Jacques l'Éventreur, c'était pas du tout un angle policier, je voulais vraiment avoir un angle plutôt psychologique. Donc comprendre en fait ce qui avait poussé ce psychopathe, hein, voilà, à tuer comme ça des femmes. Donc quelle était son histoire, pourquoi il a fait ça, quelle était sa famille. Donc je suis pas mal documenté, j'ai trouvé des documents un peu rares justement sur des témoignages sur un des suspects de l'époque qui a priori est le vrai Jacques l'Éventreur, hein, voilà. Et je me suis vraiment intéressé à son histoire et comment il en est arrivé, voilà.
D'accord.
Alors, en sachant qu'aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu être soigné, mais à l'époque, effectivement,
ouais,
a été livré à lui-même.
Avec les travers que ça.
Tout à fait.
Ok. Bah, écoute, merci Eric. Merci pour ces quelques instants. Je vais te laisser dédicacer, faire ce festival et puis bah, au plaisir de suivre ton actualité à la suite.
Et réciproquement.
Merci.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir. Donc je suis avec Getz. Alors est-ce que ça se prononce comme ça déjà?
Oui, c'est très bien.
Getz. Alors Getz, c'est quelqu'un, moi j'ai entendu parler dans un autre podcast qui n'est pas un concurrent, qui est plutôt des confrères, c'est l'atelier BD de Iguel, dont on a parlé tout à l'heure avec Seca. Et dans cet atelier BD, ils avaient dit le plus grand bien de la série RIP, pour lequel je viens d'acheter le tome 1 et je vais me faire dédicacer, mais on va discuter un petit peu de qu'est-ce que c'est RIP par son auteur. Alors Getz, qu'est-ce que c'est que cette série? De quoi ça parle?
Alors salut, bon c'est vrai que Gaël et sa bande sont fidèles depuis le tome 1 avec nous, donc on est très fiers de ça. RIP, de quoi ça parle? C'est un polar, une enquête policière même, où on va suivre une équipe d'enfants de cœur qui sont un peu braques, tu verras, et qui sont chargés de ramasser tout ce qui a de la valeur chez les gens qui vont pourrir chez eux dans l'indifférence générale. Donc ils vont ramasser les bibelots, les meubles, tout ce qui a de la valeur, des fois des liasses de billets même dans les matelas. Donc ils sont dans un quotidien un peu sordide et austère, hein, t'imagines bien. Et il va y avoir quelques événements qui vont un peu chambouler cette routine mélancolique, sombre et peu ragoûtante en fait.
D'accord.
Donc c'est une histoire à tiroir et chaque tome va être centré sur un personnage qui va narrer son histoire, sa propre histoire, même son vécu, ses valises, ses casseroles même à traîner. Et du coup on va suivre chacun de ces personnages un tome après un autre et il y en aura 6 en tout.
D'accord, donc là pour l'instant on est à peu près à la moitié quoi. Si je dis pas de bêtises, il y en a 3, c'est ça?
Bien joué, ouais,
okay,
on
parfait.
Est pile poil à 3.
Moi aussi je suis un petit peu inspecteur sur les bords. Et donc tu es dessinateur et scénariste ou vous êtes plusieurs?
Non, je suis scénariste, le dessinateur c'est Julien Monnier. Et il est en train de dédicacer sur un autre salon en ce moment.
D'accord.
Donc voilà, et on travaille vraiment à quatre mains. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai l'histoire en tête, je commence à lui en parler avant de la coucher sur le papier. Une fois qu'on est bien d'équerre, hop, on lance le tapis et on lance notre histoire. Quoi. Il se met à dessiner, on fait chapitre par chapitre, et petit à petit, on arrive à un beau bébé comme chaque tome on peut avoir, comme le troisième qui vient de sortir. Et on s'entend super bien, on a les mêmes références. Si vous aimez le cinéma, que ce soit les films des frères Cohen, de Tarantino, de Scorsese, Usual Suspect, ou même les films de Dupontel, vous allez vous y retrouver, car il y a beaucoup de références, et Julien et moi, on a vraiment les mêmes références.
Ah, c'est bien vendu, là, déjà, en tout cas, je pense que ça va accrocher plein de gens. Et en plus, c'est vrai que, quand on regarde les livres, ils sont en plus très beaux, la maquette, le livre en tant que tel est très joli, ça donne envie, en fait. C'est vrai qu'il y a un côté intriguant sur la couverture.
Ouais, c'est un format comics américain, mais avec une belle pagination de 110 pages. Donc c'est assez copieux, ça se lit d'une traite, mais on est obligé, après avoir lu le tome 2 et le tome 3, de retourner voir certains éléments qui avaient été peut-être égarés, ou même, c'est mon but, c'est qu'on retourne dans les premiers tomes pour pouvoir revoir des choses qu'on n'avait pas vues à la première lecture. Donc ça va, ça dure un petit moment cette série, et je suis assez... C'est un beau puzzle, donc chaque pièce va former ce puzzle. Voilà.
Et donc là, on est à 3 tomes, tu disais 6. C'est un tome par an, c'est comment ça se passe la sortie?
Ouais, chaque année, pour chaque rentrée scolaire, on fera un petit tome.
Okay.
Donc le prochain, fin août.
Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup, et puis j'ai qu'une envie, c'est de le lire dès ce soir. Merci beaucoup, Getz.
Ben, merci à toi. Bonne lecture.
Merci. Donc je profite d'un inter dédicace de Wallace. Donc Wallace, Stéphane, hein, je vais t'appeler Stéphane, ça te dérange pas? Donc scénariste BD plutôt spécialisé, je dirais, dans la BD aérienne, je sais pas si c'est le bon terme.
Historique. BD historique teintée d'aéronautique. Voilà,
c'est plus précis que ce que je viens de dire.
Ça. Non, ça me paraît pas mal comme définition.
D'accord.
En fait. Moi, ma base, la passion, c'est vraiment l'histoire.
Oui.
Et puis là, de mettre ça avec des grandes histoires aéronautiques, notamment Seconde Guerre mondiale, ça s'inscrivait bien dans ce que moi j'aime bien faire,
d'accord,
ce que j'aime bien lire.
On avait déjà un peu parlé de toi l'année dernière, tu n'étais pas là malheureusement,
oui.
Mais on avait parlé de toi avec ton collègue Patrice Buendia, avec qui tu travailles, et donc là on t'a également, et tu es avec un dessinateur qui s'appelle Stéphane Agosto, si je ne dis pas de bêtises.
C'est tout à fait ça. C'est tout confirme. Je confirme.
Tu confirmes que c'est bien ça. Alors, en quoi consiste votre travail? Comment vous travaillez, que ce soit avec Stéphane ou avec Patrice ou des choses comme ça? Comment toi, tu te situes?
Alors, avec Patrice, on a une collaboration au niveau du scénario. Donc, on a monté ensemble le projet L'Aigle à deux têtes. Donc, où là, on se partage un peu les idées. Moi, je fais la partie américaine, Eagle, la série Eagle. Oui. Et Patrice, la série Adler pour la partie allemande. Et en fait, on a des ponts entre les deux séries. Et donc, il y a des scènes communes sur lesquelles on travaille, vraiment, qu'on construit ensemble. Et puis, sur le déroulement de la série, sur la finalité et comment ça doit, en parallèle, être raccord. Donc voilà, on travaille énormément comme ça, en échange d'aller-retour. Donc là, il y a le nouveau diptyque qui sortira, donc tome 4 en 2021 et le tome 5 en 2022. Qui clôturera définitivement toute cette série-là. Et donc là, on travaille vraiment à la fois en parallèle et très très gros, que ça soit raccord, qu'il n'y ait pas de toute façon que ça, ça colle entre les deux univers qui sont ensemble en fait. Donc avec Stéphane, c'est une autre méthode de travail où là, moi, je suis un peu tout seul aux commandes du scénario. Donc voilà, moi, je lui amène l'histoire, le découpage, on échange aussi sur aussi un peu ses envies. Et puis
visiblement, ses envies, c'est pas d'andouillette, ça, j'ai compris.
J'essaye l'andouillette glacée en dessert, mais non, même ça ne marche pas, l'andouillette au café.
Il y aura
mais
toujours des points de discordance.
Ouais, je crois que là, j'ai encore un petit espoir, mais je crois que ça s'amenuise quand même au fur et à mesure du temps. Mais bon, on ne sait jamais, hein, sur un malentendu, il peut manger une andouillette et se faire surprendre. Mais bon, on verra. Au moins les frites, sur là, on s'accorde bien sur les frites et la carbonade, s'il y a une carbonade dans le coin,
comme
on est preneur. C'était super.
Et donc, sinon, pour plus sérieux sur le travail.
Donc, oui, voilà. Donc, moi, je lui envoie un découpage assez précis sur les cases, case par case, avec les intentions, les dialogues, ce que font les personnages. Donc, un peu le metteur en scène. Et puis après, donc, Stéphane me renvoie un découpage graphique.
D'accord.
Donc le storyboard.
Oui.
Voilà, on discute sur le storyboard qu'on valide tous les deux. Et après, il passe à la phase, lui, ancrage et puis mise en couleur par une coloriste, Katie, qui s'occupe de la couleur. Donc voilà. Donc ça fonctionne bien.
Ça fait combien
bien.
De collaborations là?
Eh ben nous, ça fait 10 ans. Voilà, on fête notre 10e anniversaire de rencontre.
D'accord.
Donc on a au compteur 6 et 2, 8, 10 albums. Voilà, 10
quand
ans,
même.
10 albums. Donc c'est pas mal, voilà. Ouais. Le 11e qui est en route, là, le tome 3 de Ciel sans pilote. Donc pour l'instant, on s'est dit 10 ans, c'est pas mal, donc pourquoi pas continuer. Tant qu'il y a de la frite, tant que la frite est en nous, voilà. Donc voilà. On peut voir l'avenir, pas en rose, mais en jaune, quoi,
plutôt
pour l'instant. Plutôt pas mal, quoi. Donc,
okay.
Donc voilà, à suivre. Et nous, ça nous plaît bien, quoi. C'est comme ça.
C'est le principal.
Et très heureux d'être à Dieppe aussi, avec ce temps merveilleux
et le public.
Ces gens sympas. Bon, attention, il y a le président qui arrive. Donc
on voilà. Rigole plus, là.
Bon, attention, il y a la dame du président. Oh là là. Voilà. Et doucement, ma tonsure. Au secours, au secours. Donc voilà, bonne ambiance. Voilà, toujours cette bonne ambiance.
Toujours bien accueilli. Et puis,
ouais, c'est super. Moi, je suis heureux d'être là, effectivement, avec. Une absence, l'absence de l'année dernière, vraiment.
Et compensé là
Ouais, complètement. Heureux de voir les gens, heureux de voir. C'est cool, quoi.
Bon,
c'est cool la vie.
c'est une très belle phrase de conclusion. Je te remercie, Stéphane.
Je n'en ai pas d'autres en tête pour l'instant.
Allez, très bien. Allez,
si j'en ai une autre, je te la ramène.
Ok, merci, bonne fin de festival.
Ouais, merci beaucoup.
Et donc, je suis avec Fred Duval. Je ne sais pas si vous connaissez Fred Duval, on en a peut-être déjà parlé au micro de l'Anthropode, je ne sais plus. En tout cas, il va se présenter, ce monsieur.
Déjà, je suis présent, ce qui est déjà un miracle. voilà. Non, tout va bien. C'est un super, super moment parce qu'il fait très, très beau. Et puis, d'être carrément dans le port de Dieppe, c'est inespéré, quoi. Par ces temps difficiles, d'avoir eu la persévérance de Jean-Pierre Surest et la confiance à la fois de la mairie, du préfet. Voilà, tout se passe bien, les gens ont les masques, tout le monde joue le jeu. Et forcément c'est contraignant, mais au moins le bébé n'est pas jeté avec l'eau du bain.
Oui, Parce qu'effectivement, tu dis c'est bien de tenir le festival, mais c'est que le public a répondu présent. En fait, il y a quand même du monde. Là, en ce début d'après-midi, auteurs ont l'air disponibles, enfin occupés plutôt.
Ouais, apparemment, on est à plus de 1000 visiteurs là depuis ce matin 10h, donc c'est formidable, quoi. Enfin ouais, on est obligé de compter là, donc on sait qu'on approche des 1000 visiteurs là. Donc c'est formidable, les gens sont là, et puis je pense que plein de Biépois ont découvert le salon, qui n'a jamais le même impact quand il se joue entre quatre murs, quels que soient les murs. Donc là, le fait d'être à l'extérieur, c'est vraiment un plus, quoi. Ouais. Bon, malheureusement, on ne peut pas le pérenniser, parce qu'il y a toujours la crainte du vent et de la pluie. Or, à Dieppe, il y a souvent du vent, il y a souvent de la pluie. Donc on peut... voilà, faudrait pas le faire en mois d'octobre, quoi. Mais en tout cas, bon, voilà, je pense qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Et là, on va super bien profiter des deux jours où apparemment le soleil est annoncé pour jusqu'à demain soir. Et voilà. Et puis l'année prochaine, ça sera une autre année. On verra bien où on en sera.
Exactement.
Voilà.
Selon les idées qu'aura Jean-Pierre au fur et à mesure, comme d'hab, il se lèvera un matin avec une idée. Et puis il comptera sur vous pour l'aider dans cette idée, quoi.
C'est ça. L'idée, c'est Jean-Pierre a des idées, puis nous, on le suit, quoi.
Voilà. C'est bien. Et à titre personnel, toi, t'en es où dans ton actualité? Parce que depuis qu'on t'a vu, t'as sorti combien, 50 livres depuis, non?
Non, 7 ou 8. Je sais pas, j'ai 7, 8 bouquins par an, 8 bouquins par an. Dans le genre un peu à me vanter, j'ai été fait chevalier des Arts et Lettres, c'est quand même pas rien. Faut le dire, hein, c'est pas l'entrepôt qui m'a envoyé des félicitations. Hein.
Oh, le menteur, en plus, on l'a relayé sur nos réseaux, c'est vrai. Il est mauvais.
Et donc, je vais essayer d'être présent à la remise de médaille.
N'oublie pas de venir. Ouais.
Bah là, non, sinon, il y a Renaissance tome 3 qui vient de sortir, qui est vachement bien accueilli. Oui. Voilà, on est super content avec Mathieu. Donc, on a attaqué un deuxième cycle de 3, du coup, avec Blanchard et MM. Il y aura, dans la grosse actu 2021, il y aura pour moi deux grosses nouveautés. Ce sont Hurlevent, avec Stéphane Créti au dessin, chez Delcourt. Et puis Un avion sans aile chez Glénal, une adaptation de Michel Bussy avec Nicolas Pinero, qui, je l'espère, sera à Diepois l'année prochaine, enfin pour le festival. Donc on va, j'espère, faire une sortie à Dieppe, parce que bon, une grosse partie de l'intrigue se déroule ici. Et donc on est en train d'en commencer un peu en discuter. Il n'y a rien d'établi pour l'instant, mais enfin bon, j'aimerais bien. Et de toute façon, au plus tard, au festival. Voilà, ça, c'est les deux grosses actus. Et puis, évidemment, tout le reste, toutes mes séries en cours. Voilà, il y a des choses dont je ne peux pas encore parler parce qu'il n'y a rien de signé. Mais voilà, non, je suis content.
Oui, t'es quelqu'un d'occupé.
Ah bah oui, là, c'est sûr que j'ai pas de temps de m'ennuyer. Et puis, voilà. Mais par contre, j'arrive à un petit peu choisir mes projets, et puis vraiment quoi. Et donc ça ne se voit pas encore, mais je vais produire un peu moins, en fait.
D'accord.
Volontairement.
D'accord.
Voilà, c'est un choix. J'ai décroché un peu de jour J, c'est-à-dire que je continue jour J, mais je vais pas tous les écrire.
D'accord.
Je vais pas tous les coécrire avec Jean-Pierre. Je laisse Jean-Pierre prendre en main certains albums tout seul. Voilà, ce qui me permet, moi, de me reposer, et puis de faire d'autres trucs, et puis surtout de faire moins. Enfin, voilà.
Se recentrer, en fait.
Ouais, un peu, ouais. Ouais, voilà. Donc, plusieurs projets en développement, on va dire. Et j'en dirai plus la prochaine fois que j'oublierai de venir à l'Anthropode.
Ok. Et puis bon, après, je sais pas si t'es souvent, enfin, moi, pour te côtoyer, t'es souvent aussi un peu peut-être pas le porte-parole, mais tu te fais un peu porte-parole des auteurs et de choses comme ça. Comment tu vois la situation des auteurs actuellement, suite à que ce soit la crise sanitaire ou même la conjoncture actuelle? Est-ce que tu sens une embellie ou une complication actuellement, aujourd'hui? Comment tu le vois?
Alors si, d'un point de vue strictement élu, oui, je suis porte-parole des auteurs normands, puisque je suis élu, enfin, pas l'officiel, mais je suis le représentant des auteurs à Normandie Livre et Lecture, qui est la grosse association régionale du livre. Donc, ce que j'ai constaté pendant la crise du Covid, c'est que aucune aide concrète n'a été débloquée par la région ni les départements en direction directe des auteurs. C'est-à-dire que voilà, se sont contentés d'accompagner les mesures du CNL, qui étaient elles-mêmes assez complexes à obtenir. Voilà, donc je suis totalement désolé de cette situation. C'est pas faute d'avoir fait des propositions en plus, vraiment, qui étaient à mon avis tout à fait réalisables. Il n'y a pas eu la volonté politique de le faire. Je le déplore, franchement. Alors ce qu'on constate aujourd'hui, moi je connais pas tout le monde, mais je discute quand même pas mal ici et là, c'est que le Covid finalement n'a fait que amplifier des problèmes qui existaient avant. Le Covid n'a rien créé. Le Covid il ne fait que montrer de manière
importante. Quelque chose qui était déjà.
Voilà, ou booster des situations qui sont de toute façon difficiles. Voilà, donc il faut traverser ça, sachant que nous les auteurs, n'ayant pas de statut concret, personne n'a trouvé le moyen, soi-disant légal, de nous aider. En réalité, il n'y a pas eu de volonté politique de le faire, parce que quand un politique décide, en général, il trouve les moyens d'eux, et là, ça n'a pas été le cas. Je le déplore, franchement. Moi, je me suis fâché avec personne. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis peut-être qu'on aura d'autres lendemains, d'autres. Voilà. Par contre, j'ai vu aussi, par exemple, un festival comme Darnétal qui n'a pas pu avoir lieu cette année, qui a touché un peu de subventions, essayer de trouver des solutions pour faire travailler les auteurs sur des interventions, sur des choses comme ça, en les payant, ce qui est un geste fort qui a été fait de la part du salon de Darnétal. Donc était une manière peut-être détournée, que les sponsors régionaux nous aident, mais j'aurais bien aimé un mot, quelques mots pour les auteurs, il n'y en a pas eu. En tout cas, ils me sont pas parvenus, et ça je le déplore. Bon voilà, après, oui, la situation globale, elle est pas terrible pour de nombreux auteurs, mais ça l'était avant le Covid, de toute façon, c'est difficile. On est dans un métier extrêmement difficile, donc. Donc voilà, on est en plus dans une année charnière, puisqu'il y a eu le transfert, ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire, il y a eu le transfert de notre sécurité sociale qui est passé de AGSA à URSSAF. Et là, c'est la cata complète. C'est-à-dire qu'on a depuis un an, on a des sites qui ne répondent pas, on n'arrive pas à payer. Là, moi, en ce moment, j'aurais payé, j'y arrive pas. Enfin bon, c'est. Ça a aidé personne quand même. Franchement, les auteurs étant farouchement opposés, les auteurs étant réfractaires aux démarches administratives, clairement, on leur facilite vraiment pas la vie. Ce transfert qu'on aurait pu se faire quand même en douceur se fait en fait que dans le chaos, parce que quand un site ne fonctionne pas, quand on ne peut pas déclarer ses revenus, ou alors très tardivement. Enfin, c'est de la folie. Moi, j'ai perdu 3-4 heures autour de ce site. D'accord. À essayer de déclarer mes revenus et essayer d'être honnête. Bon, ça a fini par se faire, mais j'ai pas trop compris comment.
On comprend que certains abandonnent en cours, ou soient démotivés.
Soit très démotivés ou démoralisés, parce que ça agit sur le moral des troupes, quoi. C'est pas simple d'exister sans statut dans une société. Bon, ok, on l'accepte, c'est. Mais quand en plus on nous met des bâtons dans les roues, là, ça devient compliqué. Voilà. Bon, mais sinon, moi je reste quand même par contre super optimiste sur ce qui se passe dans la bande dessinée franco-belge. Au niveau de la création, on a quand même une création qui est tous azimuts, qui va de la BD de pur divertissement jusqu'à des essais politiques. Enfin, on a jamais eu une telle richesse dans la création. Alors évidemment, par moments, cette richesse, elle se fait au prix du bien vivre, parce que les gens sont de plus en plus mal payés. Ouais. Mais voilà, donc
c'est un moyen d'expression qui se.
La BD est dynamique, c'est-à-dire qu'on n'est pas une agriculture moribonde qui vit à coup de subventions. On n'en est pas là. On est pleinement créatif. Et c'est bien dommage que par moment on soit les derniers de la rue, quoi. C'est un peu dommage, parce que moi je ne revendique la part de personne. Hein, simplement il faudrait penser aussi par moment à ce qu'on ait notre part, quoi. Et là j'ai vu beaucoup d'émoi pour le cinéma, ce qui est normal, pour le spectacle vivant, ce qui est normal, parce que eux aujourd'hui sont paralysés, hein, clairement. Mais nous les auteurs, on va payer autrement. C'est-à-dire que voilà. Et les artistes en général, quand les galeries sont fermées, quand les éditeurs, les librairies sont fermées, ben voilà, on a autant été touchés. Donc voilà, j'espère que les choses vont s'améliorer. Mais en tout cas, nous, moi je vois dans la BD une santé créative énorme qui est aussi forte que la que la précarité s'affirme. Ouais, c'est ce qui est quand même un paradoxe, quoi. On devrait mieux en vivre, on devrait. Et ça, c'est aussi aux éditeurs hein, d'arrêter de proposer de l'inacceptable à des gens, quoi.
Voilà. Qui sont obligés de l'accepter.
Bah, qui sont pas obligés, mais. Voilà, c'est, vous savez, c'est un problème vieux comme le monde, hein, l'offre, la demande, voilà, mais moi, quand je vois que certains bouquins dits romans graphiques, donc bande dessinée en fait à grosse pagination, de plus de 120 pages, sont payés, ce qui revient à moins de 15 euros la planche, c'est inacceptable, ouais. C'est inacceptable, voilà. Après, que les gens acceptent ça, bon, j'ai pas à les juger. Mais qu'on le leur propose, je trouve ça inacceptable.
Ok, bah écoute, merci Fred pour encore ton franc-parler hein, qu'on retrouve comme d'habitude. Donc c'est un plaisir, au moins il n'y a pas de filtre. Donc ça, c'est super.
Non, enfin si, il y a
non, mais il y a un filtre, mais je veux dire, au moins.
Tout ça, mais.
Voilà. Non, mais bah... c'est intéressant d'avoir cet aspect, effectivement, pas uniquement l'objet qu'on va acheter dans la librairie, mais ce qu'il y a derrière, en fait, les coulisses, finalement, qu'on ne voit pas forcément toujours.
Ouais, voilà. Mais acheter des BD, aller chez les libraires, voilà quoi.
Bah, merci Fred en tout cas. Et bon festival à toi, salut! C'est donc la fin de ce festival, pour moi en tout cas, pour l'Entrepode. Écoutez, encore une fois, hein, pas trop de surprises, super accueil, super organisation, des gens contents d'être là, que ce soit les exposants, les festivaliers, les auteurs, les bénévoles, enfin voilà, on sent que tout le monde a le sourire parce qu'on le voit pas, hein, tout le monde est masqué. Ça aussi, le respect des consignes est vraiment bien appliqué. Que dire, moi j'ai beaucoup aimé rencontrer encore une fois des gens hein, de tous horizons qui viennent un peu de partout en France, et puis ben, on sent bien que Jean-Pierre arrive à fédérer autour de lui toute cette équipe et tous ces gens qui se sentent vraiment bien en sa compagnie, en compagnie de cette équipe du festival de la BD de Dieppe. Et ben, c'est encore une très bonne expérience cette année pour moi de participer à ça. J'espère que j'aurai réussi à retransmettre cela dans les propos, que vous avez eu envie de découvrir les auteurs que je vous ai présentés. Malheureusement, j'ai pas fait le tour, j'ai pas pu faire le tour, fallait aussi faire un choix. Il y en avait encore, je sais pas, au moins trois fois plus à interviewer facilement. Mais bon, c'est un choix, et encore tout le monde n'était pas là aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a donné envie d'aller lire des BD, d'aller chez vos libraires, de rencontrer des gens. Vous voyez que les auteurs sont des gens très accessibles. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant quand on va dans ce genre de festival. On a toujours un peu l'impression que l'artiste et son public sont pas toujours en lien. Et bien là, souvent quand on fait ce type de festival, et ben on voit plutôt le contraire, que ce sont des gens qui n'ont qu'une envie, c'est rencontrer leur public et échanger avec eux. Donc n'hésitez pas à leur faire des retours. Voilà, c'était Nicolas pour l'Entrepode se balade au Festival de Dieppe de 2020. À bientôt. Allez, bisous. Qué sería, qué sería, qué sería, qué sería, qué sería, qué sería, qué sería.